Le journal d'Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Il reste 3 ans pour agir, après il sera trop tard. Les experts climat de l'ONU donnent des solutions concrètes pour éviter le chaos climatique. Beaucoup sont déjà disponibles entre nos mains. Alors pourquoi ça bloque? Explication dès le début de ce journal. L'offensive russe en Ukraine vue de Syrie. Les rebelles syriens se sentent très proches des Ukrainiens face aux agissements de Moscou. Dans un instant, des paroles rares recueillies à Idlib. Au sommaire aussi, 80 plaintes individuelles déposées contre Orpea. Les ex-salariés de la SAM menacés d'expulsion de leur usine. Et une nouvelle arnaque signalée dans plusieurs départements à base de fiente d'oiseaux.
Et au micro de Léa Salamé à 7h50, aujourd'hui, les deux acteurs Jonathan Cohen, Vincent Macaigne pour le film En même temps, en salle demain.
France Inter.
Les solutions sont là, Alexis, il faut les appliquer très vite.
Pour maintenir la planète vivable, c'est l'avertissement du GIEC, le groupe des experts climat de l'ONU. Leur dernier rapport est sorti hier soir. Il faudrait faire plafonner les émissions de gaz à effet de serre d'ici 3 ans, puis les diviser par 2 avant 2030 pour éviter la catastrophe climatique. Les leviers sont déjà connus, réduire drastiquement l'usage du pétrole, du charbon, du gaz, économiser massivement l'énergie. Théoriquement, chacun d'entre nous doit contribuer. Encore faut-il pouvoir le faire, Sandy Dauphin.
Éviter de prendre l'avion, consommer moins de viande, améliorer l'isolation de son logement pour gaspiller moins de chauffage. Le changement des modes de vie peut avoir un réel impact, mais encore faut-il que les politiques publiques suivent, explique Franck Lecoq, professeur d'économie à AgroParisTech, l'un des auteurs du rapport du GIEC.
Qu'est-ce que je mange? Comment est-ce que je me déplace? Est-ce que je vais plus ou moins loin lorsque je pars en vacances, etc. Et ces choix-là, il faut pouvoir les faire. C'est bien de vouloir prendre son vélo, mais encore faut-il que j'ai une piste cyclable. Prendre un transport en commun, encore faut-il que j'ai le bus ou le métro à proximité. Donc le rapport insiste beaucoup sur tous les politiques qui permettent de structurer finalement nos modes de vie, nos modes de développement pour permettre ces choix vers des vies décentes et agréables, mais bas carbone.
Pour réussir, il faut aussi des transformations majeures, immédiates, dans tous les secteurs, pas des politiques climatiques par petites touches.
On voit bien l'importance de travailler sous la forme d'un système. La voiture électrique toute seule, introduite dans des pays dans lesquels l'électricité est produite à partir de combustibles fossiles, finalement n'a pas énormément d'intérêt. Par contre, si on travaille à la fois sur le transport et sur l'énergie, alors on peut arriver à réduire les émissions. Et donc le message important là derrière, c'est d'intégrer les politiques entre les secteurs.
Reste à trouver les financements. Pour rester sous la barre des 2 degrés, les investissements annuels doivent être 3 à 6 fois supérieurs à ce qu'ils sont actuellement.
Et dans la foulée de la publication de ce rapport, le secrétaire général de l'ONU n'y va pas par 4 chemins pour Antonio Guterres. En matière de climat, des gouvernements et des entreprises disent une chose et en font une autre. Pour le dire simplement, il nous ment. Fin de citation.
Il est 7h33 après les critiques de l'administration. Alexis, Orpea doit faire face aux plaintes des familles de résidents.
Et elles sont déjà nombreuses à en croire leur avocate qui l'annonce ce matin. 80 plaintes viennent d'être déposées devant le parquet de Nanterre, notamment pour homicide involontaire ou mise en danger d'autrui. Ces familles ont perdu un proche hébergé dans un EHPAD du groupe. Une trentaine d'établissements seraient concernés, selon maître Sarah Salman.
Ce qui m'a le plus choqué, ce sont les photos avant-après. Il y a beaucoup de familles qui l'ont fait, c'est-à-dire des photos qui ont été prises soit le jour de l'arrivée en EHPAD Orpea, soit quelques semaines avant, et le après, mais après, pas 8 mois après, après 3 semaines après. Et on voit même le regard de la personne complètement éteint, que les personnes sont très rapidement en fauteuil roulant. Et moi, j'avoue que dans les photos que j'ai vues, il y en a qui m'ont vraiment empêché de dormir. Il y a aussi une chose qui m'a frappée, c'est vraiment les causes du décès. Il y a quelque chose qui revient souvent et je l'ai recopié sur des éléments médicaux, donc c'est factuel, c'est la déshydratation. Et de savoir que des gens sont décédés de soif, je trouve ça absolument terrible. Il y a une tendance dans les Hauts-de-Seine où il y a plus de plaintes que dans l'ensemble de la France, mais il y a une trentaine d'EHPAD qui sont visés dans l'ensemble de la France. Et j'ajouterais même que j'ai été contactée par des personnes qui sont hors de l'Hexagone. Donc, ça veut donc dire que c'est quelque chose qui est systémique et qui n'est pas cantonné au bord de Seine, comme Orpea semblait vouloir le dire.
Maître Sarah Salman avec Mathilde Dehimi. Les séances chez le psy remboursées par la Sécu, ça commence aujourd'hui. 8 séances au total par an sont prises en charge, à condition de consulter un praticien référent
annoncée sur la plateforme MonPsy. Pour l'instant, seuls 1300 psychologues se sont portés volontaires, soit à peine 6%. Le dispositif est loin de faire l'unanimité. Une partie des professionnels regrette des tarifs insuffisants. En Ukraine, une nouvelle découverte macabre à Boutcha. 5 corps retrouvés hier soir dans une cave de cette ville près de Kiev. C'est de cette banlieue de la capitale que proviennent les images insupportables des dernières 72 heures. Elles ont depuis fait le tour du monde et conduit les Occidentaux à réagir. Avant de nouvelles sanctions, l'Allemagne et la France expulsent chacune une quarantaine de diplomates russes. De leur côté, les dirigeants polonais et espagnols n'hésitent pas à parler de génocide pour qualifier ces massacres de civils, comme l'avait déjà fait le président ukrainien. Mais peut-on aller jusque-là, Jean-Sébastien Soldaini ?
Le génocide, c'est l'infraction internationale la plus difficile à caractériser. Il y a un aspect méthodique derrière l'horreur. Un groupe précis doit être ciblé, une race, une religion ou une ethnie, avec en amont un ordre clairement énoncé pour éliminer ce groupe. Difficile à prouver parce qu'il faut aussi que l'exécutant, le simple soldat, ait conscience de participer à cette destruction. Beaucoup de conditions pour Julia Grignon, chercheuse en droit des conflits armés à l'IRSEM. Elle voit une meilleure qualification pour les crimes commis à Boutcha.
Les mêmes images que l'on voit remonter peuvent laisser penser à des crimes de guerre. Et là, c'est beaucoup plus facile d'en rapporter la preuve parce qu'il faudra simplement démontrer qu'il y avait un conflit armé au moment où ils ont été commis et qu'il y avait un lien entre la commission de ces meurtres et le conflit armé.
Toute la chaîne de commandement peut être tenue pour responsable, de l'exécutant jusqu'au chef des armées. Pourquoi pas Vladimir Poutine lui-même s'il est établi qu'il a ordonné les crimes ou même s'il en a eu connaissance sans chercher à s'y opposer. Encore faut-il que le président russe soit arrêté sur le territoire d'un pays qui reconnaissent la compétence de la Cour pénale internationale.
Accusation ukrainienne et riposte russe à l'ONU aussi, où le représentant de Moscou a tenté de convaincre hier soir que les images de Boutcha ne reflétaient pas la réalité. Quant au président ukrainien, il doit s'exprimer pour la première fois aujourd'hui devant le Conseil de sécurité. Depuis le début de cette guerre, il y a un mois et demi, il y en a que les méthodes de la Russie n'étonnent guère. Ce sont les rebelles syriens. Pour France Inter, Aurélien Colli a pu se rendre dans la province d'Idlib, le dernier bastion des opposants au régime d'Assad. Là-bas, on trouve des djihadistes, des combattants de l'armée syrienne libre, mais aussi des civils qui ont fui les bombardements russes en appui des troupes syriennes. Et tous sont solidaires des Ukrainiens.
Protégés par des remblais face aux positions du régime syrien, les djihadistes du groupe Ayat Tahrir al-Sham surveillent la ligne de front. Un calme précaire règne, mais ici on connaît la brutalité de l'allié russe de Damas. Quand on voit la guerre en Ukraine, ça nous rappelle la guerre ici. Les Russes visent les civils, les infrastructures. Avec eux, c'est la terre brûlée, décrit un combattant. Poutine est mon ennemi, l'ennemi de tous les Syriens. Il a détruit mon pays, tué mes concitoyens, renchérit un autre, qui rêve d'aller combattre aux côtés des Ukrainiens. Même solidarité loin du front, Oasis peint des fresques dans les ruines de bombardement. C'est l'ours russe qui attaque l'Ukraine. Et entre ces griffes dégoulinantes de sang, il y a aussi la Syrie et la Tchétchénie, explique cet artiste de 50 ans. Syrie, Ukraine, même méthode et même rhétorique aussi selon Hussein, qui a vécu le siège d'Alep en 2016. Ils attaquent l'Ukraine en disant que ce sont tous des nazis, comme ils disaient qu'on était tous des terroristes de Daesh, explique-t-il, hantés par des semaines infernales, sous les bombes, malgré la présence de milliers de civils dans la ville syrienne. Idlib, Aurélien Colli, France Inter.
En France, cela fait 134 jours qu'ils occupent leur usine dans l'Aveyron. Les anciens salariés de la SAM en seront-ils expulsés aujourd'hui ? C'est à 14h qu'expire le délai fixé par la justice pour mettre fin à l'occupation du site en liquidation judiciaire. Mais les ex-employés de ce sous-traitant de Renault comptent bien rester sur place, Faustine Calmel.
Ils sont installés dans les ateliers près de l'entrée de l'usine. Un canapé, une télé, de quoi se faire à manger. Jean-Luc vient ici de 6h à 14h. Ses horaires de travail dans sa vie avant la liquidation judiciaire.
Plutôt qu'une occupation, je dirais qu'on s'occupe de l'usine.
26 ans de maison à prendre soin des machines, alors il continue.
On a un œil un peu sur tout, on fait bien attention de ne pas être dépouillé, parce qu'il y a quand même un joli stock. Entre les pièces et la matière première, il y a quand même pour 3 millions d'euros dans les locaux de l'usine. Ça produit plus, c'est tout, mais ça ne demande qu'à reproduire.
Un projet de reprise est à l'étude, un entrepreneur du Lot qui a besoin des machines ici, défend David Gisto, représentant CGT.
Il a déjà visité le site, il sait les capacités machines usines qu'il y a en termes de presse à éjecter, de centres d'usinage et de fours de fusion. Et donc, son projet, il est construit autour de l'outil de travail tel qu'il existe aujourd'hui. Si les mandataires envisagent de le vendre, ça change totalement la donne.
Alors, Sandrine promet, elle ne partira pas, même si l'expulsion a lieu, comme l'ordonne le tribunal, avec le concours éventuel de la force publique.
Si ça doit arriver, je serai là aussi. Si on craint et qu'on est que dans la crainte, on ne fait pas. Voilà. Donc, bien sûr, on peut s'inquiéter de la situation, mais je serai là quand même. Et puis, il adviendra ce qu'il adviendra.
En attendant une possible intervention, Sandrine peaufine, comme près de 300 autres salariés, son dossier pour une action au prud'homme.
Cet enjeu industriel de retour dans l'actualité à 5 jours du premier tour de la présidentielle. Dans cette dernière ligne droite, Fabien Roussel veut convaincre les indécis. 37%, 15 millions d'électeurs potentiels selon lui. Alors, le candidat communiste qui rejette l'argument du vote utile en faveur de Jean-Luc Mélenchon multiplie les porte-à-porte. Il était hier soir à Malakoff dans les Hauts-de-Seine.
France Inter, il est 7h40. La suite et la fin du journal d'Alexis Morel. En matière d'arnaque, Alexis, l'imagination est sans limite.
Oui, on en a une nouvelle preuve ce matin avec l'arnaque à la fiente d'oiseau. La gendarmerie alerte sur cette technique utilisée par certains pour dérober en pleine rue portefeuilles et bijoux à des personnes âgées. Des cas sont signalés dans l'Hérault et plus récemment dans l'Aisne à Soissons, Steven Goyer.
Une personne âgée qui se nettoie les cheveux en pleine rue avec un bon samaritain à ses côtés, a priori venu l'aider. Il y a 2 semaines, la scène a éveillé les soupçons du major Marquet et de ses collègues qui se retrouvaient, pour la deuxième fois, confrontés à une arnaque à la fiente d'oiseau.
Un des deux individus va confectionner un espèce de mélange qui s'apparente à de la fiente. Marchant tranquillement sur le trottoir, va approcher cette personne âgée et va pulvériser donc ce liquide sur ses vêtements ou dans ses cheveux. Un autre individu, lui, va venir un peu en sauveur, en présentant un mouchoir, en mettant la personne en confiance. Ils arrivent à détourner l'attention et à subtiliser donc soit des numéraires contenus dans un sac, soit des bijoux.
À Soissons, les deux voleurs ont rapidement été interpellés, une technique qui vise principalement les personnes âgées.
Il ne vaut pas tout de suite le mal. Ces individus sont tellement habiles que la victime, en fait, ne s'en rend pas compte tout de suite. Elle peut s'en rendre compte en regardant dans son portefeuille, en se déshabillant le soir et voyant qu'il manque des bijoux. N'ayant pas forcément une réaction immédiate, c'est compliqué de retrouver ce genre d'individu.
La police de l'Aisne a également communiqué sur cette interpellation, expliquant que les deux hommes avaient été mis en cage et que la victime n'avait pas eu le temps d'être pigeonnée.
Voilà, on salue le sens du jeu de mots des policiers de l'Aisne.
Parfait, effectivement. Merci Alexis Morel, l'édito politique à suivre.